25 octobre 1917. 25 octobre 1917. Alors, trouver un point de départ pour évoquer l'histoire du mouvement ouvrier dans son temps long n'est pas évident. On aurait pu choisir 1864 et la création de la première internationale des travailleurs. On aurait pu prendre 1871 et la commune de Paris. Alors, choix plus académique ou scolaire peut-être, on a choisi le 25 octobre 1917 et la prise du palais d'hiver. Alors qu'on est en plein dans la Première Guerre mondiale, en Russie, sous l'impulsion de Lénine, les gardes rouges prennent le contrôle de Petrograd dans la journée du 24 octobre 1917 et le 25 au matin, c'est la prise du palais d'hiver. C'est aussi le tournant de la révolution russe. Et si nous évoquons cette date, c'est que cette révolution ouvre à nos yeux un cycle, une page de l'histoire d'un siècle marqué par l'exercice du pouvoir de certains régimes qui se réclament du socialisme et du mouvement ouvrier. Alors, ça ouvre plein de questions. Qu'est-ce qui se passe en octobre 1917 en Russie? Et quel sens on peut donner à ces événements aujourd'hui, avec presque un siècle de recul? Et puis aussi, ce qui nous intéresse, c'est la figure de Lénine, et derrière ça, du léninisme, qui fut une figure centrale pour le mouvement ouvrier au XXe siècle.
Alors bon, tout d'abord, je crois que la date choisie, effectivement... La Commune ou 1864 aurait pu être des bonnes dates, voire même 1848, pourquoi pas. Mais effectivement, je crois que octobre, par l'écho et les répercussions internationales, par le fait que ça a été un des événements qui ont conditionné ou déterminé à peu près tout le court XXe siècle ou siècle des extrêmes, selon les différentes formules des historiens, de ce point de vue-là, aussi bien historique que symbolique, c'est effectivement une date fondatrice ou une date inaugurale. Alors, il y a plusieurs problèmes qui, enfin, ou plusieurs choses qui s'investissent dans la lecture d'octobre. Aujourd'hui, l'astre est presque éteint, donc on a du mal à imaginer à quel point. La nouvelle est dans l'immédiat, la bonne nouvelle d'octobre, on peut dire, a pu avoir d'influence en Europe et même à l'échelle internationale comme un acte de libération double. C'était d'une part la première révolution socialiste du siècle et même d'une certaine manière de l'histoire, puisqu'on connaît ou on répète souvent l'anecdote de Lénine dansant dans la neige quand la révolution, le pouvoir issu d'octobre, a tenu plus longtemps que la Commune de Paris. Bien, donc c'était l'idée que c'est possible, d'une part, une idée d'émancipation sociale, et en même temps, l'idée que l'émancipation sociale allait de pair avec l'idée de la paix. Parce qu'une des grandes raisons de l'impact de la révolution d'octobre, au-delà des frontières de ce qu'était alors la Russie, c'est effectivement cette idée de la paix, de plus jamais ça. C'est sûrement un des ressorts principaux, par exemple, qui a donné la majorité à la composante communiste au congrès de Tours. Moi, j'avais un vieil oncle qui avait été gazé dans la guerre de 14, qui s'est retrouvé dans le courant majoritaire du congrès de Tours, mais une des motivations principales, c'était la paix, plus jamais ça. Et la révolution russe semblait porter ce message-là, en même temps qu'un message de transformation sociale et d'émancipation. Alors après, évidemment, ça fait que on se chevauche un petit peu de lecture de la Révolution d'octobre. Il y a une lecture historique ou historienne, rentrer dans l'événement, comprendre sa dynamique, ses contradictions, ses difficultés. Puis c'est quand même une révolution qui survient dans des conditions de pays dévastés, où la Russie, qui n'était pas très développée avant 14, est rejetée encore plus en arrière. Et elle le sera encore plus en 1921, à la fin de la guerre civile. Donc ça... c'est les conditions de pénurie ou de dégâts sur lesquels va pouvoir prospérer la bureaucratie. Mais dans le moment de l'événement, il y a surtout l'espoir comme il y en a eu en Allemagne d'ailleurs, hein, si on lit le roman de Ernst Gleiser, La paix, c'est la même aspiration, c'est où le social et la volonté de paix se combinent. Et puis se superpose à ça l'épopée héroïque d'octobre, c'est-à-dire la lecture... nous, on n'a pas vécu l'événement, on voit pas octobre où il y a peut-être des bribes de films, mais l'image qu'on a en tête d'octobre, c'est pas le reportage qu'on aurait aujourd'hui au journal de 20h. C'est le octobre d'Eisenstein, donc c'est déjà une sublimation symbolique de l'événement, avec la qualité épique de la filmographie d'Eisenstein, etc. Donc, mais ça fait partie aussi de la réception de l'événement, de comment il a pu marquer l'imaginaire de centaines, voire de millions de gens, et pas seulement d'ailleurs dans les milieux ouvriers industriels d'Europe occidentale ou des États-Unis. Hein, si on regarde le film Reds de Warren Beatty, bon, comment là aussi, chez les chauffeurs de camions de Minneapolis ou autre, comment cet événement a pu parler à une et même à des générations entières, parce que j'appartiens à une génération où c'était encore quelque chose qui faisait vibrer, qui n'avait pas l'image douteuse d'aujourd'hui. Alors, les deux problèmes sur lesquels on peut tomber, bon, tu as abordé le problème du léninisme, parce qu'il y a aujourd'hui une espèce de généalogie biblique à rebours. Si ça a mal tourné, si on a eu le totalitarisme bureaucratique, ce despotisme bureaucratique était en germe dans Lénine, qui était en germe chez Marx, lequel était en germe dans Rousseau. Bon, et on arrive à la faute à Rousseau, si ce n'est pas pire encore. Bon. Or, ce qui est important, c'est de repérer quand même les continuités et les discontinuités historiques. Des continuités, il y en a. C'est clair qu'on peut aujourd'hui repérer ce qu'étaient les limites et l'horizon de pensée de gens comme Lénine, et plus généralement d'ailleurs de la génération d'octobre, la génération de militants qui sont tributaires de la culture, des modes de pensée de leur temps, et bon, qui ne voient pas, pour le dire quand même assez simplement, on est dans des sociétés qui sont à dominante rurale. Le rapport culturel à la violence n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. On peut avoir l'idée d'une violence innocente et libératrice après le nazisme, le goulag, la tragédie cambodgienne, les génocides du XXe siècle. On a un rapport beaucoup plus problématique à tout ça. Mais donc il faut essayer de comprendre la démarche là-dedans. Et les mots mêmes ont changé de sens. Quand on parle à l'époque de dictature du prolétariat... C'est une dictature majoritaire qui s'oppose à la tyrannie dans le vocabulaire hérité du 19e et du 18e siècle, et donc qui n'est pas du tout un mot péjoratif, et qui est la forme du pouvoir d'exception par lequel passe toute transition d'une société, d'un mode de domination à un autre. Bon, après Pinochet, Franco, Salazar, les colonels grecs, c'est clair que le mot aujourd'hui... La connotation prise dans le siècle l'emporte sur la vieille définition romaine. Bon, et ça sert à rien, on peut le faire dans des livres savants, mais personne ne comprendra ça à la première donnée. Donc il y a au contraire un Lénine très libertaire, ça on l'oublie, le Lénine de l'État et la Révolution. S'il a péché quelque part, c'est plutôt par l'illusion que l'État allait disparaître vite. Il y a même une lettre de Lénine au commissaire du peuple à la justice, où le gars, je ne me rappelle plus son nom, dit « Bon, ben là, on est dans un état d'exception où la loi est suspendue, mais il va peut-être falloir réécrire un code civil, etc. » Et Lénine dit « Non, mais ce n'est pas la peine, on n'aura pas le temps, puisque l'État va dépérir, le droit dépérira avec, et ce n'est même pas la peine de se compliquer la vie. » Donc il y a plutôt une illusion sur le fait que si la révolution s'étendait, ça c'était la condition évidemment majeure à l'échelle européenne, bon, toutes ces formes hiérarchiques de domination et de pouvoir pouvaient dépérir, non pas à l'échelle historique, mais de manière, si ce n'est immédiate, du moins à court ou moyen terme. Donc le problème, est bien de situer, là, c'est pas ce qui est gênant dans des livres comme le Livre noir du communisme, comme les livres de Furet, etc., c'est de... c'est de lire l'histoire comme un enchaînement logique dans les idées. C'est-à-dire que le passage par les contradictions, les forces sociales en mouvement, les problèmes historiques, est complètement noyé et dissous dans une espèce de logique purement intellectuelle ou purement des idées. Non, alors ça, c'est le point fondamental. Ou bien on pense que tout ce qui s'est passé dans le siècle était déjà inscrit dans la Révolution d'octobre, parce que, ce qui était d'ailleurs à l'époque la version menchévique, parce qu'elle était prématurée, parce que les conditions sociales n'existaient pas, parce que donc on ne peut pas forcer la main de l'histoire, etc. Bon, et là, on refait le film à l'envers et on dit, mais il ne fallait pas faire. Bon. Et je crois que c'est la conclusion à laquelle arrive pas mal d'anciens communistes ou même de direction de partis communistes. Ou bien on essaie de comprendre ce qui s'est passé, c'était pas fatal. Bon, un événement, et Dieu sait qu'une révolution, ou a fortiori celle que symbolise Octobre, est la définition de l'événement, c'est ce qui arrive et qui aurait pu ne pas arriver, sinon il n'y a pas d'événement, si c'était inscrit dans la logique antérieure. Alors, ça aurait pu ne pas arriver, c'est arrivé. Tout ne peut pas arriver, ça serait un miracle religieux. Ça arrive, mais c'est une possibilité qui se réalise, mais qui n'était pas fatale. Les conditions existaient, c'est arrivé, et après, l'avenir de l'événement dépend de ce qui se passe après. Et alors là, ou bien on considère que tout ce qui s'est passé dans le siècle, la défaite de la Révolution allemande, la défaite de la guerre civile espagnole, que tout est fatal, dans ce cas-là, il faut croiser les bras, aller se coucher, ou bien on pense qu'à chaque fois, les choses sont remises en jeu. Et dans le cas de la Révolution russe, elles ont été remises en jeu à plusieurs reprises, dans la Révolution allemande de 1923, dans la lutte en Russie même entre les oppositions et la bureaucratie montante à la fin des années 20, dans la lutte contre la prise du pouvoir par les nazis en Allemagne. Bon, c'est autant de bifurcations de l'entre-deux-guerres qui n'étaient pas jouées d'avance. Alors après, elles deviennent cumulatives, c'est autre chose. Mais la conclusion que nous, on en a tirée, c'est qu'il n'y a pas continuité, il y a bel et bien une contre-révolution, on peut l'appeler comme on veut, bureaucratique ou autre, à la charnière des années 20 et 30, et qui n'est pas un problème d'idées, qui est attesté par des millions et des millions de morts. Qui sont différentes par les famines, par les purges, par les déportations, etc. Mais il y a là un élément de discontinuité qui, je crois, mérite pleinement le terme de contre-révolution. Le problème, c'est que, y compris d'ailleurs les oppositionnels de gauche comme Trotsky, n'ont pas forcément totalement compris la chose parce que ils attendaient une contre-révolution qui soit le symétrique de la révolution, c'est-à-dire un coup de force qui renverse complètement ce qui avait été fait. Or, j'ai découvert tardivement, comme quoi il faut lire les réactionnaires, chez Joseph de Maistre, qui lui avait la contre-révolution thermidorienne sous les yeux après la Révolution française, et qui dit « mais une contre-révolution, ce n'est pas une révolution en sens contraire, c'est le contraire d'une révolution. » Donc il n'y a pas de symétrie, la manière dont se défait finalement ce qu'a fait une révolution se passe autrement. Ça s'est passé Thermidor et pas le symétrique du 14 juillet ou des journées de septembre 92, etc. Et de la même manière, ça s'est pas passé comme ça. Bon, donc, mais pour nous, l'important, si on veut pas perdre le fil, c'est de repérer cette discontinuité. Après, il y a des débats, on peut avoir sur la datation, comment ça a commencé, comment ça a été préparé ou facilité par certaines faiblesses dans le logiciel bolchevique lui-même. Le logiciel, il n'est pas absolu, mais bon, le texte de Trotsky, écrit en pleine guerre civile, terrorisme et communisme, est un texte à certains égards aujourd'hui effrayant. C'est le mauvais côté de Trotsky. C'est l'idée que la dictature prolétaire est un état d'exception, certes, mais quand doit finir l'état d'exception ? En 1921, quand on a gagné les guerres civiles, beaucoup de mesures d'exception pouvaient être suspendues. Au contraire, il y a eu un durcissement de l'autoritarisme du régime et une évolution renforcée vers le parti unique. Ça, et là, je crois que, par exemple, à l'époque, ils ne pensaient pas, comme un problème de principe, la question du pluralisme politique. Ils avaient l'impression que si on avait supprimé les bourgeois, le prolétariat serait naturellement bon et reconnaîtrait ses intérêts. il a fallu du temps pour admettre que même après une révolution, les anciens opprimés ou dominés ne sont pas pour autant homogènes, que donc les contradictions doivent pouvoir s'exprimer par l'indépendance des syndicats, par une pluralité politique, etc. Mais voilà, alors, dernier point peut-être, c'est de savoir jusqu'à quel point octobre, parce qu'il y a ça aussi derrière, qui a été une date fondatrice, pas seulement par l'impact de l'événement, mais parce que ça a été aussi le point de division fondamental de courant du mouvement ouvrier. Enfin, le point de partage entre la Deuxième Internationale et l'Internationale communiste. Les leçons d'octobre, pour prendre le terme le plus général, ont servi de fondement à toute une tradition du mouvement ouvrier, avec ses bons et ses mauvais côtés, etc. Alors, reste à savoir si fermé, certains pensent que le court XXe siècle de la guerre de 14 et de la révolution de 17 à la chute du mur de Berlin a été une parenthèse, après quoi l'histoire rentre dans la norme, si tant est qu'il y ait une norme historique, ce qui serait une autre question. Mais une fois fermée la parenthèse, donc, la division provoquée par qui est la conséquence de la révolution russe, congrès de Tours, congrès de Livourne en Italie, scission du Parti socialiste ouvrier espagnol, etc. Enfin, ça a quand même divisé à l'échelle internationale. Si cette division est aujourd'hui un non-sens et qu'il suffirait de revenir au mouvement ouvrier unifié œcuménique d'avant 1914. Mais c'est une idée qui est discutée, hein, c'est pas... Dans la plupart, il y a toujours, dans tous les partis communistes aujourd'hui, rénovés, relookés ou pas, etc., cette question est posée. Bon, moi, je pense pas. Je pense qu'on entre dans une nouvelle étape, mais que la nouvelle étape... selon une formule qui maintenant m'est chère, on recommence par le milieu, mais on recommence pas à zéro non plus.